fait Paris by night, non, Paris by night. J'espère que toute la soirée ne vous a pas trop fatigué. Hein. Danser avec l'Esprit du Seigneur. Hein. Voilà. Il s'agit de ça, hein. C'est danser dans les mêmes pas de danse que le Christ. Parce que si tu essayes de les faire danser à ta façon, non, voilà, alors là... Merci, merci beaucoup. Alors, ce que nous sommes en train de voir, toutes ces blagues ne sont pas des blagues, sont vraies. Hein, voilà. Et ce qu'on essaye de voir aujourd'hui, on se souvient que, comme disait Monseigneur, même s'il semble qu'on est un peu en retard par rapport au jubilé de la miséricorde, en fait, nous faisons pas autre chose que apprivoiser la miséricorde. Parce que le pape François, avec ses slogans qu'il nous a mis, il nous a ouvert un chantier incroyable. Miséricorde, sicut pater, c'est on en a. Hein? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre à accueillir, et c'est déjà un chantier, il s'agit de que, en accueillant, notre vie commence à grandir dans une miséricorde sicut pater, qu'en grec ça donne kathos. De la même façon, avec le même cœur, pas comme des personnes un peu disloquées, mais comme des personnes qui aimées correspondent au plus profond de leur cœur. On sent quand c'est artificiel ou quand c'est vrai. On sent quand c'est un métier ou quand c'est un débordement du cœur. On sent quand c'est un pur canot ou tuyau à travers lequel passent des choses que quand c'est une coquille qui déborde. Cette phrase figurée n'est pas de ma récolte, non? Elle est d'un bourguignon qui s'appelait Bernard de Clairvaux. C'est pas la même chose, ça, il l'adressait aux prêtres, non? Comme le père nous parlait tout à l'heure de faire une retraite pour les prêtres, non? Alors, c'est vrai, Bernard de Clairvaux disait, c'est différent des prêtres tuyaux, autrement dit, à travers lesquels passent le fleuve de la grâce, mais on ne sait pas trop eux-mêmes en quoi ils sont impliqués, que quand ça déborde comme une coquille. Si ça vous évoque des choses, que vous sachiez que c'est Bernard de Clairvaux qui l'a dit. Non? Pourquoi? Parce qu'effectivement, miséricorde sicut pater, c'est une merveille à laquelle la Pâque nous a introduit déjà. Le mystère pascal est déjà commencé. Et nous avons reçu le premier don de l'Esprit par lequel Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance, voyez ce mot-là, nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Ça, c'est pas mien non plus. C'est les préfaces sixième des dimanches qu'on célèbre. Vous voyez, ça descend comme toujours. Et voilà. Non, je l'ai levé un peu, ça va, ça va. Qui s'accomplisse à nous les mystères de Pâques. Pourquoi faire? Alors, comme Monseigneur m'a permis qu'aujourd'hui je parle, je vois qu'il y a un des pendentifs qu'il avait mis. C'était Luc 15. Il nous a commencé à parler de la pièce qui manquait aux fiancés. no és pas dir tu banal, no? És essencial. Si hi ha pas d'amour, si s'embrasse pas, si ça pas se touche pas notre cœur, si on n'est pas débordant de anéros divins, cette phrase, je l'aime beaucoup, parce qu'elle vient de l'ancien pape, qui aussi disait, això és intéressant, c'est-à-dire, héros divins, cœur à cœur, embrassé, débordé comme le vin. Tes amours sont mieux que les vins qui enivrent. Oh, mais de bon matin, on ne va pas s'enivrer, non? À la Pentecôte, ils se sont enivrés à la même heure que nous. Hein? C'était à 9h, en fait. Ici, nous sommes à 10h, mais avec l'horaire solaire, on est pile 9h, non? Voilà. Mais pourquoi cela est si important? Miséricordes, sicut pater, ça renvoie à la parabole de l'enfant prodigue. Et si quelqu'un a dans la tête les tableaux de Rembrandt, laissez-les dans la tête parce que ça va vous aider beaucoup. Dans ce tableau de Rembrandt, du retour de l'enfant prodigue, on voit les papas avec une main qui ressemblait à Jean-Baptiste. N'oubliez pas ça. Et une main qui ressemblait à Jésus, n'oubliez pas ça. C'est la révélation de la miséricorde qui commence à l'évangile de Saint-Luc, quand nous disait Monseigneur le premier jour, par les dons de Jean-Baptiste et les dons de Jésus. Ils sont pas parallèles, mais ils sont tous les deux ensemble. Ils sont pas la même chose. L'un c'est Dieu, l'autre non, c'est le précurseur. Mais tous les deux sont ensemble. Et ces mains du Père montre dans sa miséricorde infinie que nous rejoint aussi nous, une invitation amoureuse qu'il lui fait au fils aîné. Ce fils aîné, c'est quelqu'un qui peut nous aider beaucoup à comprendre les chemins que le Seigneur fait avec nous. Parce que quand le fils aîné, il n'entre pas dans le même mouvement du cœur du Père, le Père lui dit, n'oubliez pas, mon fils, lui dit, ce fils à toi, donc il s'est décroché. Hein? Le fils aîné, il s'est décroché. Mais le papa lui dit, mon fils, tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Parce que l'autre version se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, dans lequel Jésus, dans la prière sacerdotale, verset 10, il dit, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. La réciprocité. Qu'y a-t-il dans le cœur du Père? Mon fils, voudrais-tu être miséricordieux comme moi? Et le fils aîné, il a des malentendus, et les temps perdus, à savoir comment oublier ce temps qu'oublier, que tu es parfois accoudé, pourquoi le cœur du bonheur? Le fils, il n'entre pas dans le bonheur du Père. Pas du tout. De quoi s'agit-il, ce travail de l'espérance que depuis les premiers jours accompagne notre parcours vers la miséricorde du Père? Il s'agit de se traiter bien. Parce que souvent on se maltraite. Autrement dit, on maltraite notre cœur. Autrement dit, on ne sait pas comment faire, et du coup, au lieu d'avancer, parfois on se braque. Ça existe le mot braquer, non? Se braque. On ne bouge plus, et le cœur reste paralysé dans l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est pour ça que j'aime beaucoup cette lettre apostolique du pape Benoît, parce que ce sont les chemins par lesquels tout ce que le pape François nous dit de vivre commence à se réaliser. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre. Si on comprend et on se met volontaristement à faire, on se trouve en cours de route dépourvu, comme la Pink Panthers. Vous avez jamais vu les bandes dessinées de la Pink Panthers, non? De la panthère rose, en français, non? Voilà. Alors, ça vole, boum, et quand elle est en haut en cours de route, boum, ça tombe, et ça fait un trou dans le sol incroyable, non? Et après, quand c'est une bande dessinée, elle se remet, mais nous, on ne se remet plus, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Ne te fâche pas si quand tu pars vers Saint-Jacques, deux jours plus tard, tu es encore à Nîmes. Combien de fois on se fâche à cause de ça? Combien? Autrement dit, si le deuxième jour d'être à Château-Renard ou à Bolène ou à Védène ou à je ne sais pas où, non, à Avignon, tu vois qu'il n'est pas encore en train de vivre les merveilles d'un cœur qui s'élargit avec le fait qu'il ne se consume pas et qu'il ne détruit pas, ne t'en veux plus, entre encore dans les pèlerinages de l'espérance, parce que, ce que dit le pape Benoît depuis le début, parce qu'à fur et à mesure que j'oriente tout mon être vers, je perçois comme Israël que je suis accompagné, je me rappelle, disait Jérémie 2, 1, je me rappelle de ton amour de fiancé, quand tu marchais avec moi dans le désert, comme une terre non semée, autrement dit, comme des terres barbares, dans lesquelles il n'y avait rien, mais tu te faisais confiance à moi. Parce que cette confiance, c'est le cœur des épousailles avec Dieu. Et grandir dans ce chemin donne, il ne faut jamais l'oublier, il se dévoile notre être le plus profond. Ça sait traiter bien le cœur. Se dévoile notre être le plus profond. Autrement dit, on ne se disloque pas. Cela, les démons les mettent tous les jours dans la tête. Chaque fois que je vais essayer de vivre les béatitudes, je vais les vivre. Ça dure 3 jours, ou 2 jours, ou 1 heure, ou 1 demi-heure, ou 1 quart d'heure, non? Mais après, pas possible, je suis nul, non? C'est un des mots que j'ai entendu le plus dans ces pays, non? Je suis nul, non? Si tu vas à Auchan ou à la FNAC ou vas-tu n'importe où, tu verras que dans tous les rayons, il y a la Bible pour le nul, le Nouveau Testament pour le nul, l'Internet pour le nul, non? Les machins pour le nul, tout y a un nul quelque part. Mais pourquoi? Mais c'est vrai, c'est, vous riez parce que c'est vrai. Et je vous assure que dans tous les parcours que j'ai fait dans le monde, seulement ici dans ces pays si merveilleux, il y a tellement de bouquins pour le nul, non? Mais qu'y a-t-il derrière ça? C'est qu'effectivement, comprendre n'est donc pas de vivre. Et comprendre, c'est le premier chemin pour vivre. Autrement dit, l'intelligence que vous en avez un paquet, l'intelligence, c'est nécessaire pour avancer. Ce n'est pas un handicap. Non, 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 c'est une merveille. Mais le voir n'est donc pas immédiatement de l'évier. Voilà le sens de l'espérance chrétienne. Autrement dit, c'est apprendre à traiter bien mon cœur pour respecter la façon du cœur de Dieu. Respecter les mots d'emploi du cœur de Dieu. C'est un peu trop mécanique, non? Respecter les pas de danse de Dieu. Il ne danse pas de la même façon que nous. Et alors, voilà, le temps avance, mais pour moi c'est très important que l'horizon soit clair, parce que là on voit des choses précises qui commencent à se profiler. Le fils aîné, il ne comprenait pas les pas de danse de son père. Il était invité dans l'école du cœur à se réjouir avec lui, mais en fait, il ne comprenait pas le cœur de son père. Et alors, on va entrer un petit peu dans la pathologie du fils unique, pardon, du fils aîné. Mais on ne va pas entrer dans la pathologie pour s'en vouloir, mais pour profiler les chemins par lesquels Dieu conduit ces petits handicaps, blocages du cœur pour en faire un tremplin. Parce que Dieu ne fait pas que nous dire, donc tu es un fils aîné, tu ne fais rien, alors là, non. Il dit, je t'offre des chemins très délicats pour que tu puisses avancer et en faire de tes blessures un tremplin. Ça, c'est l'espérance et le chemin de l'espérance. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Une chose que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, ça m'aide beaucoup, c'est que les jours que j'allais accompagner, me faire prêtre et monseigneur dans l'inauguration du jubilé de la miséricorde à la métropole, le Seigneur de Notre-Dame-des-Dons d'Avignon, hein, vous savez, non? Alors là, c'était spécial parce qu'on a célébré le jubilé de la miséricorde le plus parlant du monde. Oui, il faut le dire, hein, Avignon, hein, voilà. Hein. Pourquoi? Parce que normalement, dans tous les autres jubilés du monde, on ouvrait la porte de la miséricorde et on entrait, non? Chez nous, non. Non, nous allons ouvrir la porte de la miséricorde. Et après, à l'intérieur, était un chantier incroyable, non? Tous les sols par terre, le mur, tout était... Il y avait de la poussière partout, non? Donc, personne n'a osé entrer et on nous a suggéré de ne pas le faire, non? On a mis une croix, on a vu la croix et on est revenu. On était dans les parvis, on est revenu dans les parvis. Non? Mais c'était pas si banal que ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était un chantier. Moi, ce chantier m'a fait un grand bien. La miséricorde est toute là, débordante. Mais il y a un chantier du cœur par lequel ce chemin nous envahit. Ce n'est pas simplement savoir qu'elle existe. Il faut que je m'y prête, je coopère dans ce chantier pour que mon cœur déborde. Cette coopération sont les petites voies de l'espérance dans lesquelles on va entrer encore aujourd'hui à la suite de ce que nous avons vu, et avant hier et hier. Il ne faut pas oublier. Et alors, qu'est-ce que sont que ces chemins? J'aime beaucoup les échafaudages. Hein? Là, il y avait des échafaudages partout, quand j'étais à Rome, parce que le chemin de Dieu ne passe pas quand tout est parfait. C'est pour ça que je me sens nul, c'est quand il y a des échafaudages. Quand j'étais à Rome, c'était vraiment impressionnant, au jubilé de l'an 2000, est apparu dans tous les journaux de Rome, les maires de Rome, qui étaient communistes, des PDS, non, PDC, ça, Parti démocratique de la sinistra, non? Et alors, il est allé visiter Jean-Paul II, qui était le pape à l'époque, non? Et alors, dans tous les journaux, est apparu Rutelli visite Jean-Paul II. Non? Et alors, quand il lisait la petite écrit en bas, c'est incroyable, non? Parce que, vous savez pourquoi il est allé visiter Jean-Paul II? Pour lui demander, vous savez que l'an 2000, c'est l'an de jubilé de l'an 2000, ça faisait 2000 ans de l'incarnation des fils de Dieu. Et alors, Rome a été ouverte partout, c'était une merveille, non? Voilà, alors... Et Rutelli lui a demandé au pape, simplement, que s'il pouvait déplacer d'un an, non? Mais c'est vrai, hein? Non, c'est pas une blague du tout, hein? Si vous regardez la page web d'Il Messaggero, que c'est le journal de Rome, vous cherchez autour de novembre 2000 et vous verrez ce qu'il y a, c'est ça exactement, hein? Et alors, il lui a demandé carrément qu'il se pouvait déplacer un an. Mais pourquoi? Parce qu'il disait, j'ouvre à Rome 1000 chantiers pour rendre la ville accessible aux pèlerins. Et comme c'est très italien, il arrive le 2000 et tous les chantiers sont encore ouverts. Non? Donc, Rome est impraticable. Non? Exactement pareil que 2000 ans avant. Exactement pareil. Ça, il faut le dire, parce que si Rome est la capitale de la chrétienté, Donc, dans le dessein de Dieu, il y avait quelque chose. J'aime beaucoup, hier, quand Monseigneur nous disait, peut-être l'islam en France a quelque chose à faire avec le dessein de Dieu. Je suis convaincu que oui aussi. Hein. J'étais convaincu que ce machin à Rome n'était pas loin des desseins de Dieu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les merveilles de Dieu se font en chantier. Pas quand tout est déjà fait. Pas quand je suis nickel. Pas quand il n'y a plus de problème. Et alors là, je te suivrai, Seigneur, où tu voudras. Non, mais écoute, là, quand disait Monseigneur, comme l'orgueil meurt un quart d'heure après ta mort, non? Alors, tu ne commenceras jamais. Non? C'est qu'en fait, ça c'est un des sens de l'espérance, en échafaudage, et en percevant que c'est un échafaudage, notre vie grandit par quelle voie? Qu'est-ce qui lui arrive au fils aîné? Ce matin, ma tête était très imaginative, non? Avant de courir, non? Et après, c'était plus encore, non? Et il y a quelque chose d'impressionnant, parce qu'effectivement, le fils aîné, je crois qu'il n'était pas un rigoriste. J'aime beaucoup que le pape François, il attaque le rigorisme. Qu'est-ce que c'est que le rigorisme? Il attaque dans toutes les lettres qu'il fait. Vous avez l'Evangelii Gaudium, et quand il parle dans le chapitre de pathologie des apôtres, il parle, ce sont les chrétiens pleins d'eux-mêmes, nickel, qui regardent tout le monde un peu au-dessus de l'épaule, non? Et qui gardent sous les tapis un machin incroyable, non? Tout ça, c'est vrai, non? Mais le fils aîné, il n'est pas un rigoriste, non? Non. Il pensait à un chevreau et une bière, vous voyez, il pensait à ça, il pensait avoir un petit machin cool avec ses amis et que le papa ne lui avait pas donné. Il voulait une bière, vous voyez, une bière, non? Ou je ne sais pas, un Beaujolais, je ne sais pas, un Beaujolais avec quelques anchois, non? Et une tapenade de marché des Halles d'Avignon, voilà, ok, non? Le pauvre, il était à ce niveau-là. Combien d'amitié et d'amour sont à ce niveau-là? On est cool. Tout le monde est cool. Non? Qu'est-ce que c'est que cool? Je ne sais pas, mais au moins, cool, quoi. Non? Mais ça, c'était le palier dans lequel était placé cet homme-là. Dans ce palier, on ne découvre pas l'être le plus profond qui se dévoile. Pas du tout. Et à ce niveau-là, le cœur ne se penche pas, pas du tout. Et à ce niveau-là, quand le Père me dit « Entre dans ma miséricorde », il ne comprend rien. Il ne comprend rien. C'est pour cela que, en fait, le fils aîné, c'est quelqu'un qui est encore à un niveau de perception de l'amour tellement pauvre qu'il sent que quand l'appel du Père l'invite à aller plus loin, il se sent maltraité. Est-il maltraité? Pas du tout, mais il se sent maltraité. Et alors, ça c'est toute l'introduction pour vous dire que en fait, dans ce chemin, la troisième partie de la lettre du pape Benoît nous donne trois clés. Vous savez que depuis le premier jour, je vous ai parlé de spes salvi. Le pape, dans la première partie, dit, entrons dans ce que c'est que l'espérance chrétienne. Dans la deuxième partie, dit, si on n'entre pas, vous aurez des pathologies, ce que je disais hier. La troisième partie dit, par quelle voie l'espérance est apprivoisée dans la douceur du cœur? Par quelle voie? Il y a un chantier, ne vous étonnez pas qu'il y ait un chantier, c'est pour accueillir l'amour. Mais accueillir l'amour, ça demande un boulot, parfois plus grand que ce que je fais par moi-même. C'est le boulot de la liberté passive qu'une grande femme, que j'aime beaucoup, Edith Stein, copatron d'Europe, disait dans son anthropologie théologale. Elle disait, la liberté passive de laisser faire n'est pas gagnée. Mais c'est très important pour passer du palier de cet amour cool à un amour plus profond qui touche mon être et qui peut libérer le cœur de l'autre. La miséricorde, c'est sicut pater, c'est accompagner la libération du cœur de l'autre dans l'amour. Hier matin, le père Benoît Guédas nous lisait un petit texte du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus en citant Marie, et il nous disait: Marie nous donne, par Marie et l'Esprit Saint nous vient, les dons de la réponse. Autrement dit, répondre à Dieu élargit mon cœur. Oser la réciprocité amoureuse avec mon Dieu élargit mon cœur. Ne pas oser cette réciprocité nous fait toujours dépendants de la bière et les chevreaux cool avec les amis qu'on ne comprend rien du cœur du Père, ou très peu, très peu. Et le papa lui dit: mon fils. Et le fils dit: non, je suis fâché, non, je n'ai pas la bière aujourd'hui, non. C'est ça, hein? Mais ça nous arrive très souvent, plus de ce qu'on peut imaginer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas osé la réciprocité amoureuse avec mon Dieu. Première voie du pape Benoît pour grandir dans l'espérance, il dit la prière. Mais attention, si la prière, bon, il savait ça, il faut prier, ben c'est évident, quoi. Non, non, non. Entrons dans ces chemins de prière qui font grandir l'espérance. Et on voit immédiatement que c'est la voie de la vraie récompense. On est tous assoiffés, ça je le disais hier, hein? On est tous assoiffés d'avoir récompense à ce qu'on fait pour les autres. Quand je suis arrivé au Venezuela, la première chose qu'on m'a dit: encore un missionnaire espagnol, nous, on n'en veut pas. Je parle mal de moi parce que comme ça, vous comprenez qu'on peut rire aussi du propre pays tranquillement. Non? Voilà. Des Espagnols, on n'en veut pas. Mais pourquoi? Parce que tous les prêtres espagnols qui viennent ici sont très généreux au début. Après, en cours de route, ils se brûlent et après, ils sont méchants. Vinicius dit que sí, parce que c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est une blague. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de missionnaires brûlés. Mais pourquoi? Parce que si on est mal payé, mais pas payé à niveau d'euros, hein, si tu as les SMIC ou non, si tu as 2000 euros ou non, ce n'est pas ça le problème, non? Bien payé. Est-ce que ma générosité est bien payée? Parce que si j'ai toujours une figure de vinaigre parce qu'on me paye mal, qui paye? Qui paye? C'est quand on ose la réciprocité d'amour qu'on découvre que le servir me fait du bien. Mais attention, ça ne vient pas comme ça. Il y a un chantier. Je vous disais hier, par exemple, une chose toute simple, c'est qu'effectivement, dans les mystères de la relation avec le Seigneur, toutes ces choses du Shabbat dans lesquelles, desquelles on parlait, quand je suis mal payé, je suis en proie à la violence. D'abord. Après, c'est l'essence du Shabbat. Après, ça c'est l'essence de la prière qui parle pas Benoît. Après, je suis plutôt un salarié. Autrement dit, un ministre tuyau. Autrement dit, quelqu'un qui n'écoute pas du bien qu'il est censé annoncer. Et ça, c'est insupportable, à la longue. À la courte, non, parce qu'il y a le prêtre à côté qui t'applaudit. Bon, c'est jamais le cas, mais bon, en tout cas, non. Après, il y a voilà, les gens qui te disent: mon père, ah, ça c'est beaucoup, hein, parce que quand tu finis une homélie, les gens: mon père, ah, on n'a jamais vu une chose comme ça, non, tu te gonfles un petit peu. Non, non, non. Après, non, mais les jours que tu parles les choses un peu plus évangéliques, non, ils filent tous à toute vitesse, non? Avec une mine de vinaigre incroyable, non? Mais pourquoi? Parce que tu vis des récompenses que ce n'est pas encore la source de l'amour. Combien de violences et de dépressions viennent de ça? Combien? Moi, une chose qui m'énerve beaucoup, je le dis avec toute liberté, c'est quand on commence à faire des discours, « Ah, les pauvres prêtres, les pauvres, ils sont seuls, non? Ils arrivent le dimanche et après, ils n'ont rien. Personne ne les console. » La La Land, non, c'est un film maintenant, non, qui fonctionne bien. La La Land. On est à la mode, non, voilà. C'est... Mais qu'est-ce que ça veut vouloir dire? C'est que si au moins quelque part je touche pas la source de l'amour, elle vient dans la blessure. Il faut pas s'affoler s'il y a des jours que je suis avec faim affective. Pas s'affoler. Mais si, quand il arrive la fin, je reste accroché aux quatre applaudissements qu'on me donne, c'est sûr que je serai au maxi en tuyau, mais jamais un coquille qui déborde, jamais de la vie. Mais jamais. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. C'est pour ça. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'effectivement être soutenu. Mais si ça remplace les mystères de la source de l'amour, jamais les cœurs des autres vont croire que dans les souffrances normales et dans les orages normaux de la vie, il y a une source qui arrive. Pas du tout. Même si tu fais un discours parfait, le Seigneur, dans tes souffrances, va te combler. No? Et l'autre dit, si tu fais une mine de ne pas croire à ça, incroyable, comment vas-tu me convaincre d'une chose pareille? No? OK? Alors, qu'est-ce que c'est que bien payer? Bien payer signifie, d'abord, que tu oses croire que tu aimes plus que personne par ton Dieu. Perdre du temps pour ça n'est pas du tout banal. Perdre du temps pour savoir que tu aimes plus que personne partout, oser ça, c'est avoir un cœur qui s'ouvre à la miséricorde. Oser ça, j'ai dit oser, vous voyez? Oser signifie qu'il faut oser. Parce que cette hardiesse-là est essentielle pour que notre cœur reçoive. Sans oser ça, on reçoit très peu. Qui nous dit cette école-là? C'est une école d'espérance. Hein? Qui nous dit cette école-là? Une autre bourguignonne que j'aime beaucoup, ma copine dont je vous parlais le premier jour. Élisabeth de la Trinité, dans sa lettre à la supérieure qu'elle devait lire quand elle serait morte, disait à peu près ça. « Tu es étrangement aimé. » Ose croire que tu aimes plus que personne par ton Dieu. La pauvre supérieure était un supérieur tuyau, no? Commandée, etc. Mais son cœur ne débordait pas. Et Elisabeth, qui sentait le machin, il dit, il lui a envoyé la dernière balle avant, après sa mort. No? Mais ce n'était pas une balle, c'était un amour incroyable qui lui dit, ose. Pour être bien payé. Deuxième point, pour être bien payé. Quand tu commences à entrer dans ce registre, tu découvres que tes offrandes lui plaisent. Combien de fois dans notre vie on n'ose pas vivre une offrande pour notre Dieu de la vie? C'est déjà beaucoup quand j'offre un bouquet de fleurs. C'est très important. Hein, voilà. Toutes ces offrandes petites sont très importantes. Mais lui offrir les souffrances de la journée, qu'est-ce que c'est beau ça? Lui offrir les contretemps qui vont arriver aujourd'hui, lui offrir les problèmes qui vont me tomber dessus, lui offrir, il y a une chose étrange, quand on offre ça, il y a un fleuve d'amour qui nous rejoint. Et alors là, Ça, pour les prêtres, est encore plus impressionnant parce que les jours de notre ordination, l'évêque nous dit un truc que je l'ai fait extensif pour tout le monde parce que je crois que pour les sacerdotes sacramentels, il y a des personnes concrètes que Dieu a choisies, mais pour les sacerdotes de baptisés, c'est pareil. Qu'est-ce que nous dit l'évêque au moment de l'ordination? Je l'ai dit la formule en espagnol, parce que je sais que monseigneur va me la corriger. En français, la nuance est un petit peu différente. La façon de l'exprimer est différente, le contenu est le même. Mais moi, je l'ai en espagnol dans la tête, non? Je l'ai dit. Reçois l'offrande du peuple saint pour la consacrer à Dieu. Considère ce que tu réalises. Imite ce dont tu fais mémoire. Et configure ta vie au mystère de la croix de ton Seigneur. À peu près. Hein? Qu'y a-t-il derrière cette formule? Que le Seigneur nous confie l'offrande de cœur. Autrement dit, le Seigneur ne nous confie pas simplement que nous soyons des tuyaux. Il nous confie que le cœur déborde. Parce que les offrandes, ce n'est pas la quête. Hein? C'est dangereux, ces prêtres, qui, au moment des offrandes, regardent s'il y a des zéros ou non dedans le panier. Non? Ils n'ont rien mis aujourd'hui. Non? Ah, tu fais tout le reste de la célébration avec un vinaigre incroyable. Non? Ça, non? Les offrandes, c'est la liberté du cœur pour se donner. Dieu me confie ça. Dieu lui confie au fils aîné de la parabole, ils vivront la joie de s'offrir. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Romain, c'est Saint Paul, hein? Romain 12, 1, 2. Romain, c'est la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, c'est comme les codes pour entrer à Saint Jean, non? 0, 1, 12, non? Chapitre 12, verset 1 à 2. Qu'y a-t-il derrière? Offrez vos corps comme une hostie sainte, vivante, agréable à Dieu. Tel sera votre culte spirituel. Ne vous accommodiez pas trop à ce monde de ténèbres. Les ténèbres, il ne dit pas Saint Paul, mais je le pense, non? Mais, offrez-vous, je n'ai pas la Bible ici, non? Pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, non, ce qui est bon, pardon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Qu'y a-t-il derrière cette phrase? C'est que tous les baptisés, nous devrions vivre la joie de l'offrande. Alors, encore là, l'esprit français nous touche profondément. Parce que quand je vois mes offrandes qui ne sont pas forcément trop belles, je me sens nul aussi. Offrir au Seigneur. Parfois, j'ai des élans énormes. Non? Pour moi, je me rappelle du jour de ma consécration. Non? Alors, Monseigneur Caténos, on s'est mis par terre, tous les quatre. Non? Et voilà, pour qu'il nous passe dessus tous les gens qui veulent. Non? Après, il nous passe dessus. Si quelqu'un ose même dans ces cérémonies nous passer dessus, on aurait sauté un petit peu, non? Dans les réactifs. Non? Mais bon, voilà. Et tu offres la vie. Mais nos offrandes durent très peu. Sont fragile, parfois une honte. Dans les couples, ce qui pourrit les couples très souvent, c'est qu'on se sent lâche par rapport à ce qu'on voudrait porter dans le cœur. Avant de se plaindre de l'autre, on se plaint déjà de soi-même. Et ça nous rend déçus de nous-mêmes. Et ça nous rend, je suis tout l'amour, je lui prends, je t'aime beaucoup. Tu fais des câlins tous les temps, mais intérieurement tu dis, ces câlins, il faut être un peu plus vrai, quoi, non? Ne riez pas, parce que ça c'est le noyau de ce qui nous fait encore rester avec un cœur de fils aîné et pas avancer vers le cœur du Père. C'est ça, hein? Pourquoi? Parce que oser l'offrande, c'est lui permettre à Dieu de nous dire que nos petites offrandes lui plaisent. Ah non. Que mes petites offrandes comme ça de rien du tout lui plaisent à Dieu. À mon mari, c'est sûr que non, ou à mon épouse, non? Mais à Dieu, oui. Et ça, le Seigneur me l'a appris dans une messe que j'ai célébrée une fois, dans une grande rencontre comme ici, Mais à la fin, au lieu d'avoir seulement les gens qui faisaient la retraite, ils sont venus toute leur famille. C'était une assemblée incroyable. Et alors là, au moment, c'est moi qui célébrais. Et au moment des offrandes, arrive un couple tout bien préparé, cravate, costume parfait, etc. Non? Et une petite fille toute belle, comme ça, toute petite, non? Avec un bouquet de roses. Oh là là. Le papa fait un discours, j'offre ma vie, mon métier, il offre un tas de choses, non? La maman, elle était pas moins que le papa, elle offrait le cœur, la tendresse, et tout un tas de choses aussi, la maman. Et après, une tendresse incroyable, la maman, vous verrez pourquoi, non? Et après, arrive la petite, avec un bouquet de roses. Jésus, il avait un papier pour lire, non? Jésus, je t'offre ces roses, signe de mon amour pour toi. Ah, tout le monde pleurait, waouh, qu'est-ce que c'est beau, hein? Et moi, j'étais le prêtre, et je me suis approché pour prendre les roses qu'elle venait d'offrir avec tant d'amour, et elle dit, j'en mienne! Ah! Oh là là! Et alors, le papa adresse son autorité paternelle, et la fille qui était pas moins costaud que les papas, sont miennes. La maman, ma fille, ne me fait pas ça, non? Tandis qu'elle lui donnait quelques câlins un petit peu plus fort que d'habitude. Et alors, les roses commençaient à tomber, les pétales par terre. C'était comme Thérèse de l'Enfant Jésus, la pluie des roses, des pétales qui tombaient. Et quand il restait que les tiges avec des épines, la pobre gamine a fait un acte d'abandon. Ne riez pas, hein. Les actes d'abandon que nous faisons, c'est quand on lâche déjà. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, Dieu, voilà. Tige, fichu, épine, machin, etc. Non? Après, j'avais honte et je savais pas où mettre ça, hein, parce que... Voilà, je les ai mis éparpillés sur l'hôtel pour que ça se voit pas beaucoup, non? Mais attention. Après, je disais, la prière eucharistique troisième, et ça m'a fait une révélation qu'encore aujourd'hui me dire. Parce que, nous le savons, quand le prêtre fait ses formules comme ça, on sent que c'est bon, maintenant c'est le discours du prêtre, non? On laisse passer, on passe au frigo et tout ça, non? Mais, alors, il dit, reconnais dans l'offrande de ton église l'offrande de ton fils. Et ça m'a fait un bien incroyable. Parce que le Père reconnaît dans nos offrandes presque nulles l'offrande de son fils. Et c'est là, Thérèse de l'Enfant Jésus le fait sien d'une façon merveilleuse. Lorsqu'elle dit dans ces chants que nous connaissons par cœur, non? Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. La troisième strophe, je sais bien que toutes nos justices n'ont la moindre valeur. Parce que la vraie valeur, c'est qu'il unit mon offrande à celle de son fils. Il y a des gens qui croient pas ça. Il se voit nul et l'élan de l'amour ne les prend pas. Et la récompense ne leur arrive jamais. Parce que la récompense arrive lorsqu'avec mes quatre tiges mal fichues offertes, je découvre que Dieu voit l'offrande de son propre fils. Mon cœur s'élargit. Et on est bien payé. Et je ne suis pas mendiant d'amour à toutes les personnes où je vais. Et ça commence à déborder d'une grâce qui est là. L'amour a été englouti dans la vie, oui. Mais il y a peu de personnes qui osent vivre ces merveilles de la récompense. Et alors là, c'est le jour de carême, hein, le mercredi de cendre, on vous lit ça tous les ans. T'as déjà ta récompense. Si tu fais l'aumône en voyant, t'as déjà ta récompense. Si tu pries pour qu'on te voie, t'as déjà la récompense. Tu restes encore dans l'amour de quoi? De la bière avec le chevreau. Et avec ça dans la tête, le cœur va pas s'élargir quand le Père te dit, entre dans mon amour. Pas du tout, on comprend rien. Voyez un peu l'importance. Il ne suffit pas de dire « Sicut Pater ». Il faut entrer dans les chantiers par lesquels ces merveilles nous rejoignent et se déploient dans notre intérieur. Et ça donne, il reste encore quelques minutes, ça donne que quand le papa me dit « Tout ce qui est à moi est à toi, mon fils », je comprends quelque chose. Sinon, je ne comprends rien. C'est un chantier, n'oubliez pas, hein. N'oubliez jamais Rutelli, le maire de Rome, qui dans les 2000 ans de la mort, de la naissance de Jésus, il continue dans un chantier. N'oubliez pas ça. Mais ces chantiers nous font entrer dans le chemin d'une miséricorde qui est agissante dans nos cœurs et qui nous fait trouver notre propre compte, notre propre bien. Et c'est pour ça, par hasard, que juste après le fils de la parabole de l'enfant prodigue, dans les pendentifs de la miséricorde, Monseigneur Lamy, dans le quatrième pendentif, première perle, il y a cet administrateur malhonnête qui n'a pas d'autre chose derrière, que c'est la justice d'un autre. C'est l'argent d'un autre. C'est le bien payé d'un autre. Ose croire qu'il n'y a rien de toi. Il n'y a rien de toi. Ça, c'est Thérèse de l'Enfant. Thérèse de l'Enfant Jésus qui le découvre. Il n'y a rien de nous. Le pharisaïsme, c'est les personnes qui encore se vantent de quelques machins. C'est pire grâce. Mais quand tu vois que c'est pire grâce, tu entres dans la liberté plus grande de l'amour qui se donne. Cet amour est vrai, n'est pas un rêve de l'Évangile, est vrai. Mais c'est là qu'est-ce qui libère en nous notre être le plus profond, que c'est et tout recevoir et tout donner. Qu'est-ce que c'est que tout recevoir et tout donner? Je vais finir rapidement. Hein? Trouver mon propre bien. Et ça l'est dit. Le Seigneur, après avoir fait cette parabole incroyable de laquelle on ne sait pas trop comment s'en sortir, même dans les homélies de dimanche qu'il y a à Luc 16, on ne sait plus quoi faire, immédiatement apparaît que quand on entre dans ce dynamisme de la justice d'un autre pour faire du bien à nos frères, on trouve notre propre bien, dit l'Évangile. On se découvre comme une offrande qui est tout accueil. Une offrande qui est tout accueil. Plus je m'offre et plus je reçois. Et plus je reçois et plus je donne. Et plus je trouve une joie incroyable et de tout recevoir et de tout donner. Mais si je reste un peu pharisienne et que je regarde les gens au-dessus de l'épaule parce que je suis des chrétiens quand même juste, droite, parfait, qui cachent les tapis ce qu'il ne faut pas voir et donc du coup on est au-dessus de la moyenne, alors là, ce fleuve se stoppe. Le fleuve existe, mais il se stoppe. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ensuite? Il ouvre une troisième voie, et je vais finir avec ça. C'est que quand on découvre le propre être, on comprend mieux que la miséricorde la plus grande, c'est lui faire vraiment du bien à l'autre. Que ce n'est pas lui donner ni une bière, ni un chevreau. C'est lui aider à déployer ce qu'il est. Encore l'espérance, hein? Je vous ai dit, le pape Benoît disait, l'espérance nous permet de déployer ce que nous sommes. Quand cela commence à être vrai, j'aime l'autre bien, comme le papa de l'enfant prodigue l'aimait. Je vais lui donner de pouvoir vivre dans sa vie ce qui est être un maître, un pouvoir, quelqu'un qui a la maison, quelqu'un qui est capable d'engendrer la vie dans le cœur des autres. Et je vais dire le dernier exemple, parce qu'on va finir. J'ai un couple que le Seigneur m'a fait le cadeau de connaître et qui, après avoir connu le chemin du Seigneur, ils ont été un petit peu conséquents. Et alors, il était directeur d'une banque en Espagne, à Valencia, le Banco de Santander, dans le centre de la ville. Et alors, le monsieur, il a eu une rencontre avec le Seigneur fulgurante, ils avaient 11 enfants et 5 adoptés. Ça, c'est avant sa conversion. Voilà. Et alors, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a entendu l'appel à venir au Venezuela avec moi et avec les enfants qui étaient encore petits, pas les 17, sinon les autres étaient déjà grands, mais les 3 ou 4 petits qui leur restaient pour travailler dans la mission. En fait, ils ont travaillé au Venezuela et au Mexique avec les buissols, que c'est des indigènes là-bas qui étaient un petit peu délaissés, non? Pour aider à construire l'agriculture. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est le moment dans lequel ils ont compris que la miséricorde avait des conséquences énormes dans leur vie, et ils seraient heureux de vivre ça. C'est vrai, ça c'est historique, concret. Alors, je me souviens, c'est la phrase que je vais vous dire, ça va vous faire un bien très grand. Parce que, je répète, si mon amour est encore à niveau simplement de tapas, cool, etc., ça donne une chose. Si on perçoit la valeur de chaque vie, ça donne une autre. Et alors, j'ai encore dans la tête les gens qui leur disaient, vous, que vous soyez fous, ça va. Mais, quelle faute ont commis vos 4 enfants que vous allez amener pour les soumettre à une folie pareille? C'est concret, hein, c'est concret. Quelle folie ont commis vos 4 enfants? Et alors, le réflexe qu'il a eu, ça m'a fait un bien énorme. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il dit, et quelle faute ont commis les vôtres pour leur laisser dans ces marchés à niveau de paquerettes qui empêchent que le déploiement du cœur élargisse leur cœur. Aura des iPad, iPod, iMachin, iPhone, iFacebook, iWhatsApp, non? Dans lesquels ils voient des conneries toute la nuit, dans lesquels la journée ils sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voient dans les petites vidéos qu'ils voient, et quand ils réussissent à les faire, c'est encore pire. Moi, j'étais encore impressionné, et j'ai fini déjà, hein, encore impressionné à Vincent de Paul. Vincent de Paul, c'est ça Vincent de Paul, mais là-bas ça s'appelle Vincent de Paul, non? Et il est mort d'un gamin de 15 ans, et nous, à l'APS, on s'est regardé avec des yeux, on ne savait plus où le mettre, parce que la maman s'est plaignée, vraiment, c'est scandaleux ce que je vous dis, mais c'était tellement historique, ça fait un mois de ça, hein. La maman s'est plaignée, la maman qui envoyait les enfants à l'école catholique, parce que ça a été au moins quelque chose de bon, hein. La maman s'est plaignée parce qu'elle disait, sa sœur de 16 ans a déjà connu le sexe et l'amour, et la petite est partie, est morte sans avoir connu ces merveilles. Non, ça c'est historique, je vous le dis, c'est réel, plus réel que je suis assis ici. Ça fait à moi. Mais attention, avec cet amour-là, croyez-vous qu'on va déployer pleinement le cœur des enfants pour qu'ils soient bien fondé dans une encre qui donne l'espérance et l'oxygène à cette société? Pas du tout. Quelle faute ont commis vos enfants pour que vous leur mettez ces machins dans la tête que jamais va déployer? Sommes-nous responsables d'offrir à nos enfants un cœur qui se déploie dans la source de l'amour? Les fils aînés de la parabole, ils ne comprenaient pas ça. Bière, chevreau, ami, cool, ça va, c'est bien. Tapas, 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 iPad, baba, 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 baba. Sommes-nous responsables que l'amour grandisse dans le cœur? Je te confie l'offrande du peuple saint pour la consacrer à Dieu. Et il faut le demain du Père, d'une tendresse incroyable qui fait que n'importe quelle situation doit être accueillie, même les remariés, même tout, il faut accueillir tout. Mais une autre main, non moins nécessaire, de la vérité qui permet de faire de bon en avant. Parce que si miséricorde, c'est ce que cette maman parlait, excusez-moi, ça va à la pourriture totale. et jamais les cœurs vont déborder de rien du tout. Seulement on déborde lorsque dans la vérité on se place dans ces sources de la récompense qui fait que mon cœur s'épanouit à la hauteur du cœur du Seigneur. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, mon fils. C'est une responsabilité amoureuse. Ce n'est pas un fardeau que je vous mets à la fin de la retraite. Non, non, c'est une responsabilité amoureuse. Plus on vit ça, plus on épanouit le cœur avec des souffrances incluses. C'est la dernière partie du chemin d'apprivoisement de l'espérance que le pape Benoît nous dit. Il dit les jugements et un chemin d'élargissement de l'espérance. Parce que la vérité fait bondir en avant. Au ras des paquerettes, l'amour se délite et on finit en rien du tout. Le demain du Père, celle de Jean-Baptiste et celle de Jésus, comme la révélation de la miséricorde. Amen. Merci.
Donc l'Eucharistie a lieu à 11h à la chapelle de la Colombière. Ne laissez rien dans les salles, puisqu'elles vont être fermées. Et nous espérons, et au nom des sanctuaires, nous vous remercions de votre présence et de votre fidélité surtout. Et nous espérons aussi que cette nouvelle configuration vous a permis de vivre pleinement votre retraite. Merci à vous.